Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Bienvenue dans Flashback, votre émission sur les classiques du cinéma. Au menu, les nombreuses ressorties, le Festival Lumière de Lyon, bien sûr, dont on va vous détailler assez largement la programmation. Nous consacrerons d'ailleurs notre histoire de cinéma à Jane Fonda, qui recevra le 19 octobre à Lyon, justement, le 10e prix Lumière. Notre invité est le réalisateur Jérôme Ouibon pour la sortie en DVD de deux documentaires, l'un dédié à Jean-Paul Rapneau et l'autre à Jean-Paul Belmondo. Jérôme Ouibon, bonjour.
Bonjour Antoine.
Et merci beaucoup de venir en plateau avec nous pour cette émission. Et tout de suite, on parle du 10e Festival Lumière. Le Festival Lumière, c'est devenu depuis maintenant une dizaine d'années un événement incontournable du cinéma classique, du cinéma de patrimoine, initié en 2009 par Thierry Frémaux et Bertrand Tavernier. Le festival n'a fait que prendre de l'ampleur d'année en année. Des spectateurs cinéphiles et moins cinéphiles sont là à salle comble. C'est quand même un festival, il faut le rappeler, qui est véritablement dédié au public. Les salles sont pleines et ça, c'est quand même quelque chose vraiment d'assez impressionnant quand on y va. Donc cette année, eh bien, c'est la 10e édition du festival, avec donc en invité d'honneur Jane Fonda, dont on en reparlera tout à l'heure, qui recevra le 10e prix Lumière. Ce n'est que la deuxième femme d'ailleurs à recevoir ce prix après Catherine Deneuve. Et avec Jérôme, nous allons un petit peu détailler cette programmation de ce Festival Lumière, à commencer donc par la rétrospective Jane Fonda, mais aussi un panorama sur l'œuvre de son père, le grand Henri Fonda. J'ajoute d'ailleurs que pour la cérémonie de clôture, une version restaurée 4K des Raisins de la Colère sera projetée à la Halle Tony Garnier pour la cérémonie de clôture. Alors, le Festival Lumière eh bien, continue son exploration des grands cinéastes français pour certains décriés, encore pas si longtemps, et aujourd'hui célébrés, on peut s'en réjouir, avec notamment l'œuvre d'Henri de Coin. Henri de Coin, c'est bien sûr La vérité sur Bébé Donge, Jérôme, mais pour des spectateurs qui vont aller à Lumière, qui vont découvrir l'œuvre d'Henri de Coin, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement leur suggérer?
Non, ce qui est bien avec le Festival Lumière, c'est la réhabilitation. C'est-à-dire que des cinéastes oubliés ou voilà, un petit peu qu'on ne célébrait pas trop, on peut à nouveau voir, en plus on a des copies restaurées, le tout souvent présenté par Bertrand Tavernier, ce qui gâche rien pour le coup. Donc il y a ça, quoi. Il y a toute cette effervescence autour de réhabilitation. Et surtout, les salles sont pleines, ça c'est vrai, mais sont pleines aussi de jeunes cinéphiles. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gros souci en ce moment de renouvellement de la cinéphilie, clairement, pour plein de raisons. Mais là, au Festival Lumière, c'est assez rempli, quoi. Il y a une vraie curiosité. L'année dernière, il y avait la présentation des quelques épisodes de Voyager à travers le cinéma français. C'était plein, quoi. Il y avait des gens sur les marches, voilà. Donc, il y a ça, quoi. Et ça, Lumière, c'est vraiment très, très, très spécifique. C'est par rapport à Cannes, par exemple, on peut croiser les gens entre les séances, tout ça, à la Villa Lumière. Il y a un côté village, en fait. Il n'y a pas du tout, je trouve, à Cannes.
En effet, c'est une célébration de tous les cinémas et de toutes les cinématographies, il faut bien le dire. Alors, en dehors donc de l'œuvre d'Henri de Coin, il y aura également des films consacrés à Richard Thorpe, alors qui est un considéré un peu comme un faiseur d'Hollywood, alors qu'il sera peut-être temps de redécouvrir. Patrick Brion, d'ailleurs, c'est plutôt un bon choix, c'est le moins qu'on puisse dire, s'en chargera très bien.
Je crois qu'on n'a pas le choix, on parle de Richard Thorpe, voilà. On parle de Patrick Brion.
Patrick Brion sera évidemment là et accompagnera cette rétrospective. King Hu, le grand cinéaste, sera également là pour ses films de KPDP chinois, avec notamment, bien sûr, l'Hirondelle d'Or. Et puis, également, le festival a son lot d'invités, comme chaque année. Alors, il faut quand même aussi spécifier que le festival a cette particularité d'avoir des parrains et des marraines qui présentent pratiquement toutes les séances. Je crois que toutes les séances programmées ont une présentation voilà, qui éclaire un peu le film qui va être projeté. Et puis dans les invités, nous aurons cette année la grande actrice et réalisatrice suédoise Liv Ullmann, qui parlera bien sûr de son travail avec Bergman. Peter Bogdanovich, qui est quand même l'un des réalisateurs un peu phares de ce festival, puisqu'il présentera des documentaires qu'il a réalisés, notamment, je crois, un sur Buster Keaton, mais aussi, et ça c'est un petit peu l'événement un peu retardé, retardée, on va expliquer pourquoi, c'est la projection du film inachevé d'Orson Welles, The Other Side of the Wind, produit par Netflix, que beaucoup attendaient à Cannes, qui s'est retrouvé à Venise, que Thierry Frémaux tout de même programme pour ce festival Lumière. Et ce film donc inachevé d'Orson Welles a été retrouvé, remonté en partie par Peter Bogdanovich. Donc ce sera un événement avant sa diffusion sur Netflix début novembre. Et puis, toujours lien avec Netflix, Alfonso Cuarón, qui sera également là et qui présentera l'avant-première du très attendu Roma, qui vient de recevoir le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Et puis toujours dans les invités, on retrouvera notamment Javier Bardem, Biuna ou encore Claire Denis. Et puis des films et des invités, alors je ne vais pas tous les citer, Jean-Paul Rapneau, on va bientôt en parler, qui présentera Le Cerf sur le Toit, Caro et Jeunet, Délicatessen, Jerry Schatzberg, qui est un invité récurrent, qui présentera La vie privée d'un sénateur, Stephen Frears également sera là, et puis Douglas Trumbull, donc, qui présentera 2001, l'Odyssée de l'espace, qui sera projeté en 70 mm, et puis je crois qu'il y a un documentaire aussi qui lui est consacré et qui sera diffusé pendant ce festival Lumière. Et puis, à côté de ça, il y a évidemment les cycles de ressorties, de restaurations qui seront, comme chaque année, présentés. Alors, parmi les ressorties, on peut citer John Carpenter, nous allons bientôt en reparler, avec New York 97, Miloš Forman avec Ragtime. C'est une très bonne idée, ça, d'avoir, je trouve, restauré Ragtime. Mario Monicelli avec Les Camarades, Oshima avec L'Empire de la Passion. Ça, c'est pour les ressorties. Je pourrais citer aussi Fritz Lang. Et puis, dans les nouvelles restaurations, Le voleur du bicyclette de Vittorio De Sica, qui avait déjà été présenté à Cannes Classique, qui sera présenté là. Anthony Mann également avec Winchester 73. Je n'en cite que quelques-unes, puisqu'il y a aussi des œuvres de Enrico Ruffio, René Ferré. Dans les grandes projections, ça c'est... moi, je me souviens, l'année dernière, on avait eu le droit notamment au 1900 Bertolucci. C'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Là, nous aurons, dans les grandes projections, Greystock, notamment, en présence de Christophe Lambert et Jürgensen, Le destin d'Youssef Chahine, La horde sauvage de Sam Peckinpah. Le festival a aussi toujours une attention particulière pour le cinéma muet, avec notamment des ciné-concerts. Encore, je crois, cette année liée à Buster Keaton, puisqu'il y aura, je crois, le dimanche 21 octobre, jour de la clôture, voilà, un ciné-concert à l'Auditorium de Lyon de Buster Keaton avec Ma vache et moi, réalisé donc par le maître du muet. Et puis d'autres ciné-concerts accompagnés au piano seront projetés pendant ce festival. Côté jeune public, c'est là où le festival est ouvert, nous aurons la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, et oui, présentée à la halle Tony Garnier. Une nuit Sergio Leone, évidemment, qui correspond avec les événements autour de Sergio Leone à la Cinémathèque française, avec la projection de Le Bon, la Brute et le Truand est une fois dans l'Ouest, une fois la Révolution. Également, un événement autour de Jean-Luc Godard avec une série de films de Jean-Luc Godard. Et puis, également, des rencontres aussi avec Claude Lelouch, une célébration de Max Linder, une rencontre avec Françoise Arnoul. Enfin, on ne va vraiment pas s'ennuyer pendant ce festival Lumière, qui est vraiment accessible à tous les publics.
Ce qu'on peut dire aussi sur Sergio Leone, c'est que Actes Sud et l'Institut Lumière édite, enfin traduisent pour la première fois en France, la biographie de Sir Christopher Frayling, Something to do with Death, que j'ai acheté il y a 15-20 ans maintenant, et je suis assez content parce qu'elle est un peu en morceaux. C'est vraiment une bible, hein, c'est un
donc
pavé.
Donc c'est une réédition ?
Non, c'est une adaptation, parce que ça n'est jamais sorti en France, et c'est la biographie la plus complète sur Leone. Voilà, elle était disponible, c'est sorti à la fin des années 90 ou début 2000, en anglais, et on ne l'avait jamais vu, on n'avait jamais pu la lire en français. Donc là c'est vraiment une superbe occasion, et je crois que l'Institut Lumière est coéditeur là-dessus.
Voilà, donc ce sera en effet un livre à découvrir au Village Lumière pendant ce festival. Donc toute une programmation du 13 au 21 octobre à Lyon, alors dans nombreuses salles de la ville de Lyon, mais aussi de la région lyonnaise. Beaucoup d'événements donc à retrouver sur le site du Festival Lumière. Sergio Leone, justement, on en parle rapidement puisque nous en parlerons beaucoup plus longuement lors du prochain flashback, mais sachez donc qu'une exposition sur le réalisateur d'Il était une fois en Amérique débutera à la Cinémathèque française le 10 octobre et se poursuivra jusqu'au 27 janvier 2019, accompagnée d'une rétrospective de ses films du 10 octobre au 24 novembre. Mais en effet, vous venez de parler de l'édition de ses livres autour de Sergio Leone, de la rétrospective et surtout de l'exposition, donc nous en parlerons plus longuement lors du prochain flashback. Et enfin, pour un plus jeune public, mais pour les jeunes et les moins jeunes, un cycle dédié au cinéma d'animation d'Emile Cole à Walt Disney qui a lieu à la Fondation Jérôme Sédoux-Pathé du 17 octobre au 3 novembre, donc pendant les vacances de la Toussaint. La Fondation dédiera donc sa programmation aux dessins animés qui ne sont pas à cette époque-là que de l'œuvre de Walt Disney, hein, puisqu'il y a en effet beaucoup de sources. Alors, ce seront des séances exceptionnelles accompagnées par un pianiste qui jouera en direct pendant la projection. Les jeunes cinéphiles et les moins jeunes pourront découvrir les chefs-d'œuvre animés imaginés par Emile Cole, Winsor McCay, Marius O'Gallop, Robert Lortac. Alors, il faut aussi rapidement qu'il y ait Emile Cole. Hein, en 1908, il réalise Fantasmagorie, qui est un film assez fondateur, applaudi par le public à l'époque. Il réalisera d'autres longs métrages, notamment Fantaisie d'Agnor Maltracé et Le peintre néo-moderniste. Il y aura donc aussi des films autour de Winsor McCay, également au programme, dans le sillage donc de ses inventeurs, Marius O'Gallop, qui réalisa des fresques absurde comme Fable de la Fontaine notamment, et puis Robert Lortac donc transpose la caricature de presse dans le monde de l'animation et réalisera Canard enciné notamment, où la tuberculose menace tout le monde. Et puis évidemment aussi au programme les formidables Alice Comedies qui sont absolument à découvrir, qui avaient déjà été proposées en salle il y a quelques mois, et donc ce sera aussi une occasion de les découvrir. Donc dans ce cycle, le cinéma d'animation d'Emile Cole à Walt Disney du 17 octobre au 3 novembre à la Fondation Jérôme Sédoux-Pathé. Et tout de suite, on parle d'une légende d'Hollywood, Jane Fonda. Dans notre histoire du cinéma, nous revenons sur la carrière de Jane Fonda, qui recevra le 10e prix Lumière au Festival de Lyon. Jane Fonda est la fille de l'un des plus grands acteurs de l'âge d'or hollywoodien, le majestueux et solennel Henry Fonda. Sa mère, Frances Fonda, qui souffrait d'un grave trouble bipolaire, se suicide en se tranchant la gorge avec une lame de rasoir alors que la petite Jane n'a que 12 ans. Dans ses mémoires publiées en 2005, l'actrice raconte qu'elle fut autorisée à accéder au dossier psychiatrique de sa mère et découvrit que cette dernière avait été violentée dans son enfance, un traumatisme qui a sans nul doute contribué à son instabilité émotionnelle et mentale. Jane Fonda passe sa jeunesse à New York où elle suit une scolarité banale. Ses rapports avec son père sont difficiles, l'homme, froid et distant en privé, étant bien éloigné de l'image d'Américain modèle véhiculée dans ses films. Comme son père, Jane Fonda est intéressée par le métier d'acteur et décide de partir à Paris pour faire des études d'art. De retour des États-Unis, elle rencontre le fondateur de l'Actor Studio, Lee Strasberg, qui loue son talent de comédienne. Une rencontre déterminante qui façonna la suite de sa carrière. Elle fait ses débuts à Broadway en 1960 dans la pièce There Was a Little Girl, pour lequel elle reçoit sa première des deux nominations aux Tony Awards, avant de débuter sa carrière au cinéma la même année dans La tête à l'envers de Joshua Logan, qui lui vaut une nomination au Golden Globe de la révélation féminine.
Oh, I'm sorry, it must have slipped out of my bag.
What is it?
Oh, it's just a list of books I'm going to pick up at the library.
Spengler, Decline of the West, Darwin, Origin of Species. John Dewey, Individualism Old and New in the Basic Writings of Sigmund Freud? What? I didn't know you were taking all these courses.
Oh, I'm not. I couldn't work them in. But why should that stop me from satisfying my intellectual curiosity?
Isn't there anything in the world you're not interested in?
Why do you think I came to college? Should we continue the experiment?
Oh, yeah. Now, you're sure that you've mixed the proper proportions of acid and oxidizing agent?
Oh, yes.
Cette expérience laisse un goût amer à l'actrice qui se sent prisonnière d'une image lisse et formatée que les studios tentent de lui imposer. Elle enchaîne avec La rue chaude, drame adapté du roman de Nelson Algren se déroulant durant la Grande Dépression, où elle montre l'étendue de sa gamme de jeux, partageant l'affiche avec Laurence Harvey et Barbara Stanwyck. Après Les liaisons coupables et Un dimanche à New York, elle retourne en France pour le film de René Clément, Les félins, dans lequel elle partage l'affiche avec Alain Delon.
Les félins, c'est beau. C'est doux, c'est mystérieux, ça regarde, ça observe. C'est caressant, c'est voluptueux, c'est provocant. Les félins, c'est tendre. C'est gentil. c'est gay. Les félins, ça aime, ça trahit, ça déteste. Mais les félins, c'est coquet, c'est jaloux, c'est cruel, c'est vicieux, c'est terrible. Ça rampe, ça court, ça bondit, ça gémit, ça crie,
Barbara,
ça hurle. Alors les félins, ça se bat, ça griffe, ça mord, jusqu'à la mort.
Sa carrière connaît un coup d'accélérateur avec le western 4 Balous, dans lequel elle interprète une institutrice hors la loi, l'un des plus gros succès du box-office de 1965. Elle enchaîne avec la tragique Poursuite impitoyable d'Arthur Penn, violent réquisitoire contre le racisme, avec Robert Redford, qu'elle retrouve l'année suivante dans le plus léger Pieds nus dans le parc. Puis elle tourne sous les directions d'Otto Preminger dans Que vienne la nuit. Intervient alors la rencontre avec le réalisateur français Roger Vadim, qui l'épouse. Il lui offre en 1968 le rôle de Barbarella, adapté de la bande dessinée de Jean-Claude Forest. Un sommet de kitsch érotico-pop qui a pris beaucoup de rides, mais qui se regarde toujours sans déplaisir.
Meet the most beautiful creature of the future. Her name is Barbarella, and she makes science fiction something else. Jane Fonda is Barbarella. Barbarella is a five-star, double-rated astronavigatrix Earth girl whose specialty is
love.
Shall I tell you what I would like?
I think I know.
Her top secret mission is a real wing-dinger.
I got him. Good many dramatic situations begin with screaming. Hand me a garment.
En 1969, Jane Fonda devient une star internationale grâce à l'adaptation du roman d'Horace McCoy par Sidney Pollack. On achève bien les chevaux, où elle campe une candidate désespérée d'un marathon de danse au moment de la Grande Dépression.
Lady are in deep trouble.
Come on, Captain, we're gonna make it. Oh.
30 seconds.
Walk! Walk! Walk!
Le cinéma connaît alors des changements profonds et elle participe pleinement au bouleversement esthétique de son art. En 1972, elle remporte son premier Oscar pour son personnage de prostituée dans Clout d'Alan Pakula, aux côtés de Donald Sutherland. Cheveux bruns coupés courts, secrète et mystérieuse, l'actrice dévoile une toute autre facette de son jeu.
I'm not going to be able to come back anymore.
Oh, I'm sorry.
Because I just can't afford it.
Did I fail you, Brie?
Well, I mean, I've been coming here all this time, and I've been paying you all this money, and why do I still want a trick? Why do I still walk by a phone and want to pick up the phone and call?
Did you think I had some magic potion? You'd come in and tell me what your problem was, and I would just take it away? What's the difference between going out on a call as a model or as an actress and as a call girl? You're successful as a call girl. You're not
successful. Because when you're a call girl, you control it. That's why. Because someone wants you, not me. I mean, there are some Johns that I have regularly that want me, and that's terrific. But they want a woman, and I know I'm good. And I arrive at their hotel or their apartment, and they're usually nervous, which is fine, because I'm not. I know what I'm doing. And for an hour, I'm the best actress in the world and the best fuck in the world. And...
Why do you say you're the best actress in the world at that time?
Oh, because it's an act. That's what's nice about it. You don't have to feel anything. You don't have to care about anything. You don't have to like anybody. You just lead them by the ring in their nose in the direction that they think they want to go in. And you get a lot of money out of them in as short a period of time as possible. And you control it and you call the shots. And I always feel just great afterwards.
La même année, elle tourne avec Yves Montand dans Tout va bien, devant la caméra de Jean-Luc Godard, alors en pleine période Mao. Les années 70 deviennent une intense période de militantisme pour Jane Fonda. Elle épouse le sénateur démocrate Tom Hayden et, après avoir soutenu le mouvement des Black Panthers, devient une combattante acharnée contre la guerre du Vietnam. En 1972, à Hanoï, elle est photographiée assise sur le siège d'un canon anti-aérien nord-vietnamien coiffée d'un casque militaire. La classe politique américaine et une partie de l'opinion publique fustigent l'attitude de l'actrice qu'elle juge antipatriotique. Un scandale que la comédienne regrettera et qui la poursuit encore aujourd'hui dans certaines franges de l'Amérique. Malgré ou à cause de cette fièvre militante, elle ne perd pas pied dans le marasme hollywoodien. Elle continue de tourner et devient même productrice d'œuvres engagées. Tout d'abord, Retour d'Al-Ashby en 1978 sur les vétérans du Vietnam, qui lui vaut son deuxième Oscar, puis l'excellent Syndrome chinois de James Bridges, dans lequel elle dénonce les dangers du nucléaire.
The China Syndrome. It's about people. People who lie. And people faced with the agony of telling the truth.
Right.
People like Kimberly Wells, a television reporter paid to smile, not to think.
A few words about a veterinarian who makes house calls on sick fish. Or is it aquarium calls?
Richard Adams, a cameraman who never learned how to play by the rules.
Will you get that other room, get that radiation all over that cute little body?
Jack Goodell, an engineer who knows too much to tell the truth.
In anything that man ever does, there's some element of risk, right? Well, that's why we have what we call defense in depth.
And cares too much to lie.
No accident.
It will start with a tremor in a nuclear power plant. Where it will end will depend on three people.
I would say you're probably lucky to be alive. Same for the rest of Southern California.
Jane Fonda.
Let's face it, you didn't get this job because of your investigative abilities.
Kimberly, don't fight it.
Jack Lemmon.
There was a vibration!
Michael Douglas.
I don't know that accident is the right word.
Accident is the right word!
The China Syndrome. The harder they try, the more resistance they meet.
They've got their own security man. Do you hear what I'm saying? Do you want to make it any clearer?
The closer they get, the more threatening it becomes.
No.
The China Syndrome.
You idiot!
Today, only a handful of people know what it really means. And they're scared.
Everybody keep your station! Everybody keep your station!
Soon, you will know.
L'engagement politique très fort de Jane Fonda, qui lui a fait mener une vie de bohème bien éloignée du strass hollywoodien, renforce la personnalité d'une femme farouchement libre qui a toujours cru en ses idéaux, quitte à mettre en danger sa carrière, allant même jusqu'à siffler dans les oreilles du président des États-Unis, un certain Richard Nixon. Au début des années 80, elle triomphe de manière inattendue grâce à l'aérobic, publiant une série de 23 vidéos d'exercices sportifs, sobrement intitulées Jane Fonda's Workout. Les ventes atteignent au total 17 millions d'exemplaires, un succès planétaire surfant sur la tendance du culte du corps propre aux années 80. L'argent récolté sert à financer la carrière politique de son mari Tom Hayden, mais son mariage bat de l'aile et les deux époux se séparent en 1989, Hayden ne supportant pas la futilité de l'entreprise, alors que Jane Fonda considère elle que celle-ci était utile pour financer ses combats politiques et rembourser ses prêts.
Are you ready?
Yeah!
There's never been a better way to strengthen your abs, tighten your buns, and tone your thighs than with Jane Fonda, America's best-selling workout instructor of all time. And now she's back with a better offer to give you a better body at the best price. For the first time through the special television offer, Jane is making her entire workout library available to you. Call now when you receive your first video, the complete workout, for this special introductory price of $9.95 plus shipping and handling. Approximately every other month, you'll receive another workout video for $19.95. Jane Fonda's workout programs are tested and approved by a team of experts. So if you want to burn fat, shape and tone your muscles, and improve cardiovascular conditioning, start now with the complete workout for $9.95 and help change your body and change your life.
Après La Maison du Lac en 1981, où elle tourne pour la première et dernière fois avec son père Henry Fonda, marquant une sorte de réconciliation finale, elle enchaîne plusieurs films oubliables et décide de mettre un terme à sa carrière. En 1991, elle épouse le milliardaire Ted Turner, dont elle divorcera en 2001. C'est en 2005 qu'elle fait son grand retour sur les écrans face à Jennifer Lopez dans une comédie dispensable, Sa mère ou moi. Mais le film est un succès. La même année, elle publie son autobiographie, My Life So Far, vendue à plus d'un million d'exemplaires. Depuis, l'actrice a repris les plateaux de cinéma, ici et là chez le français Stéphane Roblin ou l'italien Paolo Sorrentino, et s'est distinguée aussi à la télévision, notamment grâce à la série Grace and Frankie, aux côtés de Lily Tomlin.
We want to talk to you about something. Saul and I are in love.
Excuse me?
You're gay.
We want to get married.
Oh, married?
Because we can do that now.
I know. I hosted that fundraiser. Well, I don't
know why. I'm heartbroken.
You're going to make better memories. And you can reuse the frames.
They're going to be fine. We're going to be fine. I'm so
scared. Mom. We're going to find you people to talk to. People who understand exactly what you're going through.
There's a group for wives of husbands who've turned gay in their 70s.
I am young. My joints are supple.
Yes, Robert is my law partner, but we are also homosexual law and bed partners with each other in life. Boy, this partner thing is really confusing, isn't it?
Frankie, you're a complete disaster.
Did you realize I have a knife in my hand? I don't want to face my remaining years alone.
I'm just like you, but with a better personality.
Certainly bigger.
Break down your emotions for me.
Toujours très engagée, elle cofonde en 2005 avec Robin Morgan et Gloria Steinem le Women's Media Center, une organisation qui a pour vocation de valoriser l'engagement et la place des femmes dans les médias. L'actrice, qui vient de fêter ses 80 ans, demeure une des grandes icônes du cinéma américain. Elle a emprunté plusieurs vies, poursuivi des chemins de traverse, toujours avec la même détermination, et restera jamais comme l'une des personnalités ayant le mieux incarné les soubresauts esthétiques et politiques de son temps. Jane Fonda sera également à l'honneur à la Cinémathèque française, à l'occasion d'une rétrospective en sa présence du 22 octobre au 5 novembre, et à noter que le documentaire de Suzanne Lacy, Jane Fonda in Five Acts, déjà présenté au festival de Sundance et de Cannes, sera diffusé sur la chaîne OCS Géant le 19 octobre à 20h40, suivi de deux longs métrages, Barbarella et Pieds nus dans le parc. Jean-Paul Rapneau n'a réalisé que 8 longs-métrages en 50 ans de carrière. Il n'en demeure pas moins l'un des maîtres étalons du grand cinéma populaire français. La vie de château, Le Sauvage, Cyrano de Bergerac, Bon Voyage, tant d'œuvres inspirées, brillantes, drôles et poignantes qui racontent aussi une part de notre histoire. Pour célébrer cette belle filmographie, Pathé sort un coffret DVD regroupant 6 films du cinéaste, accompagné d'un documentaire dans les pas de Jean-Paul Rapneau qui revient sur la carrière du réalisateur, émaillé de souvenirs et d'anecdotes, racontés par Julien Rapneau, Jean-Loup Dabadie, Juliette Binoche et beaucoup d'autres. À cette occasion, nous recevons Jérôme Ouibon, le réalisateur de ce documentaire, qui a également consacré un portrait au Jean-Paul Belmondo cascadeur dans Belmondo ou le goût du risque, édité en DVD chez l'Atelier d'Images. Jérôme Ouibon, bonjour.
Bonjour Antoine.
Merci d'être avec nous dans Flashback. Ce qui est frappant à la vision de votre documentaire, c'est de voir à quel point Jean-Paul Rapneau est le personnage de ses films. On a l'impression qu'il joue en permanence tous les rôles de ses films.
Oui, c'est vraiment c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les interviews que j'ai faites, d'acteurs évidemment, mais aussi de collaborateurs, d'assistants. Voilà, il est vraiment au cœur il vit les films. Alors, c'est parfois difficile. Enfin, ça reste très joyeux hein. Sur les plateaux. On n'est pas chez Piala, quoi. Donc pour le coup, mais voilà, ça peut être déstabilisant parfois pour certains comédiens. Mais en même temps, voilà, il vit tout ça. Et puis, c'est comme c'est un cinéaste qui tourne assez peu. Quand il arrive au tournage, voilà, il y a quelques années de travail derrière, tout est calé, tout ça. Donc, il a vraiment envie d'entendre la musique qu'il a imaginée dans les dialogues et tout ça. Donc, voilà, ça vit vraiment. En plus, avant, il n'y avait pas les combos, tout ça. Donc, il était vraiment à côté de la caméra. Maintenant, il a un combo portable. C'est ça que j'aime bien chez Jean-Paul Rapneau, c'est qu'il a plus de 80 ans. Mais il prend toutes les technologies modernes. Enfin, c'est pas un vieux cinéaste, c'est un jeune homme, c'est un vrai jeune homme. Donc, je sais pas si vous voyez les images du tournage de Belle Famille.
Oui, c'est très frappant.
Il a un combo portatif.
C'est très très vivant. Enfin, on a l'impression que il vit les scènes. Enfin, ouais,
c'est un jeune homme, quoi. Donc, je pense qu'il tourne comme il tournait 20 ans avant, quoi. Donc, il a cette énergie assez incroyable et que je voulais tout prix retranscrire dans le documentaire. Ça aurait été une catastrophe si le documentaire avait été mou.
non, mais c'est en effet, c'est pas du tout le cas. Et il est rythmé à l'image de l'obsession de Jean-Paul Rapneau, qui est obsédé par le rythme dans tous ses films, qu'ils soient plus légers ou plus graves. C'est vraiment quelque chose de primordial pour lui. Et comment, selon vous, parvient-il à trouver ce tempo qui est propre à tous ses films?
Alors, le rythme, c'est pas la précipitation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grosse différence. Ça passe par le dialogue, évidemment. Il faut pouvoir le dire assez vite. Hein. Catherine Deneuve est assez douée pour ça, pour le coup. Mais aussi le mouvement des corps. C'est vraiment quelque chose qui va avec, en fait, le dialogue. L'un va pas sans l'autre, quoi. Donc tout ça est dosé au millimètre près. Ce qui n'empêche pas quand même une part de jeu de l'acteur, hein, clairement. Hein. Juliette Binoche le dit, vraiment, elle peut proposer des choses, la manière de toucher ses cheveux, bah, tout ça se fait en harmonie, quoi. Mais voilà, je pense qu'il a passé tellement de temps à écrire le scénario que tout est prévu et tout est pas répété, mais avec sa script, voilà, ils font ce genre de choses. Sur Cyrano, qui est un film en alexandrin, donc là, il y a une musique dans l'alexandrin, même s'ils ont coupé énormément de choses avec Carrière, hein, dans la pièce. Voilà, donc tout ça nourrit un rythme, même avant le premier jour de tournage, quoi. Donc, et au montage, ça sera encore différent, quoi.
Et le rythme, il se traduit aussi, il l'explique par l'importance du mouvement. Le mouvement dans une scène, le mouvement d'un acteur, le mouvement de la caméra aussi.
Oui, et puis, même moi j'ai vu sur la vie de Château, il m'a montré, il faisait déjà du storyboard. Des petits dessins, hein, évidemment, on n'est pas dans... Mais voilà, pour placer les acteurs, c'est son premier film. Il a été assistant quand même sur d'autres... sur des films de Raymond Bernard, quand même. Hein. Voilà, donc, qui est pas un manchot, quoi. Donc, Raymond Bernard, revoyez Les Misérables. Mais voilà, il y a... Tout ça est calculé, quoi. Voilà, le mouvement des corps, si ça ne s'est pas en corrélation avec le dialogue, ça, et la place de la caméra et le mouvement de caméra, ça va pas marcher, quoi. Donc là, il y a une maîtrise incroyable de sa part. En plus, il est soutenu par des très très bons techniciens. Les techniciens, c'est réducteur, mais Pierre Lhomme, c'est quand même
chef opérateur,
un artiste.
Pierre Lhomme, oui.
Ah, travaille avec Melvin, enfin voilà, Chris Marker, enfin voilà, j'en oublie plein, mais voilà, il est entouré d'artistes aussi. Donc après, il a une vision très claire de ce qu'il veut, et ce qui donne des réussites assez hallucinantes comme Le Sauvage ou Cyrano, hein, plus on le revoit, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est comment il est arrivé à ça, quoi. C'est dès les premières scènes, oula, mais il se passe un truc qu'on a rarement vu dans le cinéma français, je parle à l'époque, hein, donc voilà, c'est ça la réussite du cinéma de Rapneau.
Il raconte le choc qu'a représenté pour lui Citizen Kane, et qu'il a manifestement décidé à devenir metteur en scène. Est-ce que Jean-Paul Rapneau est un réalisateur cinéphile?
Oui, il est cinéphile dès ses 15-16 ans, même s'il est assez peu au cinéma au départ. Il va plutôt au théâtre, mais après il va devenir très très cinéphile. Et ce qui est amusant, c'est qu'il est resté, en fait. Et ses fils m'ont raconté, c'est pas dans le documentaire, mais quand ils avaient 14-15 ans, ils l'emmenaient voir Terminator de James Cameron et tout ça, et lui sortait assez surpris, et agréablement surpris, mais ouais, c'est vachement bien. Et, donc il y a une curiosité. Je sais qu'il va voir beaucoup de films, il tourne très peu, mais il va quand même voir les films pour voir les nouveaux talents, les nouveaux comédiens. Donc tout ça l'intéresse beaucoup, quoi. C'est un jeune homme, hein, il y a pas photo, hein. Donc il y a une curiosité pour tout ce qui se tourne, pour les films de ses contemporains, évidemment, mais aussi pour les nouveaux cinéastes, hein.
Mais alors, en effet, il a voulu devenir cinéaste, mais il a mis beaucoup de temps quand même à le devenir vraiment. Il a été scénariste durant de nombreuses années pour Louis Malle, pour Alain Cavalier, pour Philippe de Broca, avant de passer à la mise en scène. Pourquoi il a attendu 66 pour réaliser La vie de Château ?
Déjà, il prend son temps, ce qui sera le cas évidemment.
Par la suite,
sa marque de fabrique, mais il n'est pas le seul. Hein. Jacques Tati est comme ça, hein. C'est pas un cinéaste dont on a vu beaucoup de films et beaucoup de préparation. Pour moi, c'est vraiment deux cinéastes qui se rejoignent, en plus dans la comédie, dans un genre très différent, mais voilà, il y a ce souci-là. Et je pense que voilà, il y a une espèce de chemin de traverse. À un moment, il est parti vers le scénario parce que certains avaient besoin d'un coup de main. C'est bien connu, sur l'homme de Rio, de Broca était empêtré dans une histoire où ça fonctionnait pas, quoi. Moi, je fais un documentaire sur l'homme de Rio il y a quelques années, et la partie la plus intéressante, c'est pas le tournage au Brésil avec les cascades, hein. C'est l'écriture du scénario, hein. Donc, ils étaient à quatre avec Ariane Mouchkine. Enfin, bon, ils sont partis dans tous les sens, quoi. Donc, pour trouver une intrigue, qui fonctionne. Donc voilà, je pense qu'il est parti là-dedans, et puis à un moment, il a dit, mais non, j'ai vraiment envie, je fais ça pour devenir réalisateur, quoi. Donc, en plus, il n'est pas de la nouvelle vague. Il est un autre groupe qui n'a pas de nom, qui est le groupe de Cavalier, Louis Malle, Carrière. C'est vraiment une autre partie. Mais en même temps, c'est des gens qui sont nés en même temps que la nouvelle vague, mais c'est complètement différent. Donc, même si De Broca, lui, est de la nouvelle vague, hein, faut pas l'oublier, quand même, assistant sur les 400 coups. Voilà, lui, Rapneau, il est sur un autre groupe qui est pas défini vraiment, mais qui est une autre tendance, quoi, clairement, quoi.
Alors, en effet, c'est un réalisateur qui a toujours mis beaucoup de temps à réaliser ses films, passant parfois près de 10 ans entre deux longs métrages. C'est vrai que c'est quand même assez fort. Comment il parvient à tenir aussi longtemps ? Il dit, je crois, quelque chose comme l'histoire de se forger une conviction.
Oui.
Tout ce temps de préparation, tout ce temps de latence avant de réaliser le film.
Oui, c'est ça. Alors, il ne fait pas rien, hein, évidemment. Il y a des projets qui vont être abandonnés aussi, malheureusement. Enfin, malheureusement, je sais qu'après Tout Feu Tout Flamme, il a ce projet qui s'appelle Chic, sur la mode, avec, excusez-moi, mais Catherine Deneuve et Isabelle Adjani, quand même, au projet.
Qui ne se montent pas. Qui n'arrive pas à se monter.
Non, c'est-à-dire que ça bloque un peu visiblement sur le scénario. Et à ce moment-là, la Gaumont le contacte, on est en 84-85, plutôt en 85, pour faire Cyrano de Bergerac. Et la Gaumont lui dit, voilà, on pourrait peut-être faire le avec Belmondo, comme Les Mariés de l'an 2, tout ça. Et en fait, Rapneau, lui, ce qu'il a envie, c'est, moi, je voudrais faire un film avec Depardieu. Bon, je viens de voir un film, là, je vous le dis, mais je paraphrase, mais c'est ça. Il vient de voir Amadeus, de Miloš Forman, et il dit à Gaumont et à Alain Poiret, le producteur de Gaumont, il faut qu'on fasse un film visuellement comme Amadeus, voire mieux. Donc, très très cher pour le coup. et donc la Gaumont va faire marche arrière. Donc voilà, il a des projets qu'il n'arrive pas à monter, et finalement il arrivera à faire donc ses 90 Cyrano avec un autre producteur, hein, René Kletman, et Depardieu, hein. Donc moi j'ai aussi fait un nouveau documentaire sur Cyrano là qu'on peut voir dans le coffret, où il raconte avec Jean-Claude Carrière vraiment davantage la production en tant que telle de Cyrano. En plus, j'ai retrouvé des images assez incroyables de l'enregistrement de la musique, des choses qu'on n'a jamais vues sur le tournage.
Enfin, tu conviendras. Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse.
Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire.
Et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant ? Prendre un patron ? Et comme un lierre obscur qui circonvient à un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force ? Non, merci. L'aider, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. De trouver du talent comme Mazette, être terrorisé par de vagues casettes et se dire sans cesse, oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François. Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci.
Voilà, c'est un cinéaste qui travaille. Hein. Et c'est vrai qu'entre Bon Voyage et Belle Famille, il va se passer un certain nombre d'années, mais il y a aussi des projets qu'il n'arrive pas à monter. C'est pas qu'il n'arrive pas à monter financièrement. Hein. C'est un cinéaste, voilà. Mais voilà, il n'est pas satisfait ou il abandonne un projet, clairement.
Oui, il y avait, je crois, dans cette période-là, un film qui s'appelait Affaires étrangères qui s'est pas fait.
Tout à fait.
Pourtant, c'est un réalisateur qui, jusqu'à presque ces 10 dernières années, était quand même abonné au succès. Enfin, c'est des films, en effet, chers, lourds, difficiles à monter, mais qui avaient un succès public. Qu'est-ce qui caractérise le plus, selon vous, ces films? C'est quoi la patte Rapneau?
C'est ce qu'on a dit, il y a un rythme qu'on voit pas.
Sans parler plus du style, peut-être du fond. Qu'est-ce qu'il raconte dans ces films? Qu'est-ce qui finalement, qu'on peut percevoir en filigrane?
D'abord, il y a un hommage à la screwball comédie américaine. Hein. C'est quand même un cinéaste très, très inspiré de la comédie américaine, ce qui n'est pas très commun en France, pour le coup. C'est pas un style. Donc, avec beaucoup de dialogues qui se chevauchent, des personnages femmes assez importants. Et en même temps, c'est très ancré dans l'histoire française. C'est-à-dire que Tout Feu Tout Flamme ou Belle Famille, et évidemment La Vie de Château, sont des films vraiment très ancrés dans notre histoire. D'ailleurs, La Vie de Château sort quelques mois avant La Grande Vadrouille.
Oui, il faut peut-être rappeler le contexte. Historique de La Vie de Château.
C'est-à-dire que La Vie de Château raconte le débarquement. Enfin, je vous spoil le film, hein, je suis désolé.
Pour ceux qui l'ont pas vu, on s'en excuse, mais il faut le voir quand même.
Ça raconte quelques jours avant le débarquement des Alliés en 44. À l'époque, faire une comédie sur la Seconde Guerre mondiale, on est à fond dans le tabou, là, quand même. Hein. Se moquer de ça, c'est compliqué. On est moins de 20 ans après les événements. Alors, évidemment, quand La Grande Vadrouille sort 6 mois plus tard, ou je sais plus, 2 ans après, là, il n'y a plus de problème. Mais La Vie de Château qui va être un gros succès. Hein. Puis en plus, il y aura le prix de Luc et ils vont faire 2 millions d'entrées. Ça change un peu la donne. Quoi.
Monsieur, j'ai ordre de m'installer avec mes hommes dans votre propriété.
Non, c'est pas possible, je ne peux pas. Vous ne comprenez pas le français.
Le parachutiste, le pauvre garçon.
Commandant, vous ne connaissez pas le frère de ma femme?
Et très honoré, monsieur.
Le frère de qui?
Mais quoi, Bobby? J'ai un message pour toi.
Ah?
Oui, voilà. Alors tu viens jouer la comédie à ton père. Papa, mon mari ne m'aime pas. Il est derrière mon dos. Tu débauches ton meilleur soldat.
Maintenant, je sais, vous êtes la seule femme. Les autres n'existent pas.
Oh, des cocos!
Ce sont des explosifs.
Oh, mon Dieu, mais pourquoi faire?
Des sabotages.
Sabotage? Quelle bonne idée!
Qui êtes-vous? Hein?
Lâchez-le!
Votre femme est partie avec son amant!
Mon piano!
Eh bien, c'est notre parquet! Mais non,
faites pas une histoire, elle reviendra, votre fille.
On se joue pas de ma vie.
Alors de qui?
Les Américains.
Qu'est-ce qu'ils vous en fait?
Débarque demain matin.
Il aborde aussi des sujets qu'on voit assez peu dans la comédie française. Il est vraiment à part, quoi. C'est très difficile, mais voilà, il fait des films qu'on voit pas chez d'autres cinéastes. Alors aujourd'hui, il y a Salvadori, il y a des choses comme ça, hein, des cinéastes qui sont dans cette veine-là, sans copier, hein, mais qui sont vraiment dans, on va dire, de la comédie de luxe. Enfin,
c'est pas péjoratif, la comédie avec du style et du fond.
On n'est pas dans le gag. J'ai rien contre le gag, hein, mais c'est complètement différent. Et puis en plus, ces films qui vont s'exporter, quoi. Le Sauvage, ça va bien marcher en Europe et tout ça. Donc, il y a quelque chose de très très différent. Et il y a un amour des comédiens aussi. Hein. On disait que tout est écrit, tout est placé, les mouvements, mais en même temps.
C'est aussi un cinéma. Alors c'est peut-être mais c'est aussi un cinéma de vedettes. On a l'impression qu'il en a vraiment besoin, hein, pour raconter ses histoires.
Oui, parce que je pense que c'est un cinéaste qui aime les acteurs, qui aime les actrices. Je crois qu'il m'avait dit une fois, non mais ça sert à rien, on prend pas une actrice. Si on tombe pas amoureux de son actrice, ça sert à rien de prendre. C'était à propos d'Isabelle Adjani sur Tout Feu Tout Flamme, alors que c'est elle qui est venue le chercher. Hein, au départ, c'était un film avec Francis Huster. Donc
dans le rôle Yves Montand.
Non, c'était l'histoire d'un jeune homme qui montait en politique et donc ça se retrouve un petit peu parce que elle est traductrice ou je sais plus quoi dans le film auprès d'un ministre.
Oui.
Mais au départ voilà, elle a l'envie de raconter une espèce de je crois de jeune Jacques Chirac qui montait en politique et Isabelle Adjani voit le sauvage à la télé et l'appelle. Je voudrais faire un film avec vous, hein, sortez de Possession, donc rien à voir. Mmh. Et surtout, elle lui interdit de voir Possession pour pas l'effrayer. Mmh. Et Kimani, il avait jamais vu. Il a jamais vu Possession. Donc voilà, il y a aussi des provocations. Enfin voilà, il y a des choses qui se transforment par les rencontres. Et Isabelle Adjani, c'est vraiment il s'est passé quelque chose sur Tout Feu Tout Flamme. Un film qui devrait être tout autre au départ.
Alors, il y a une autre vedette avec laquelle Jean-Paul Rapneau a tourné, c'est bien sûr Jean-Paul Belmondo, qu'il dirigea en 1971 dans Les Mariés de l'an 2. Le même Belmondo à qui vous consacrez un documentaire, Belmondo ou le goût du risque, édité chez l'Atelier d'Images. Alors, est-ce que, comme beaucoup de personnes de finalement plusieurs générations, le Belmondo cascadeur vous fascine?
Moi, j'ai grandi avec celui-là. Moi, j'ai vu que celui-là à la télé pendant très longtemps. C'est-à-dire que Bébel qui saute de sa voiture, qui saute par-dessus, et toc-toc badaboum, et tout ce qu'on veut, quoi. Le commissaire Letellier dans Peur sur la ville, tout ça. C'est vraiment... Moi, je voulais pas faire un documentaire sur Jean-Paul Belmondo, de A à Z. Je trouve ça passionnant, ses débuts et... choses comme ça, mais souvent je trouvais que dans les documentaires sur Belmondo, on passait assez rapidement, de 75 à 85, il aligne les succès, là, l'As des As, machin, et après, enfin, il retourne un film avec Le Louch, et donc ça part sur 50 minutes, il y avait 3 minutes, quoi. Alors que moi, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose d'une période assez sympa, à partir de Peur sur la ville, où il est l'énorme star, il peut faire ce qu'il veut, et il décide de s'amuser. Finalement. Bien sûr, il a fait des cascades sur l'Homme de Rio, des choses comme ça, mais à partir de 75 jusqu'à Les Morphalous, Joyeuse Pâques, enfin bon, c'est vraiment la cata, là. C'est pas très bon, quoi. Il y a vraiment ce... Moi, je voulais vraiment parler de ça, donc à la fois la prise de risque, mais pour le plaisir, hein, quand même, et cette espèce de marque de fabrique, Belmondo sur les affiches en grand, avec des titres assez interchangeables, et de regarder comment ça avait fonctionné, quoi. Parce que c'est inédit, quoi. On n'avait jamais vu ça, on tape dans le muet avec Chaplin et les gens vont voir Chaplin et tout ça. Là, il y a vraiment, on va voir Belmondo. On se souvient jamais du nom du personnage, c'est pas grave, il est flic, il est truand, peu importe, c'est pas grave. Il y avait la cascade, il y avait la gouaille, il y avait au dialogue, une vraie jouissance, quoi. Le film du samedi soir, hein, comme on appelait ça à une époque, à la télé. Et je trouve qu'il y avait quelque chose à célébrer quand même, même si évidemment à un moment, il le dit lui-même, hein, dans une archive que j'ai retrouvée, à un moment ça tourne à vide, hein, il n'y a plus rien, quoi. Quand il fait Le Solitaire, Jacques Deray, mais alors qu'il triomphe au théâtre.
Dans Keane,
c'est une catastrophe, quoi. Je crois qu'il n'y a même pas de cascade ou quasiment il saute d'un truc dans Le Solitaire parce que je crois qu'il s'était blessé ou je sais pas quoi, donc il n'y a pas grand chose et il ne reste plus rien, quoi. Donc.
Alors, cette volonté d'être un acteur bondissant comme ça, il le dit lui-même dans plusieurs archives que c'est dû aux échecs successifs. Enfin, en tout cas, c'est en réaction à certains films qui sont pourtant la plupart des très bons films, voire des grands films, qui n'ont pas forcément été très bien reçus à l'époque ou bien perçus par le public, que ce soit Le Voleur, la Sirène du Mississippi ou dans un autre registre, Stavisky. Il pensait, enfin, dit-il, oui, les gens pensent que je m'ennuie, alors que je m'ennuie pas du tout. Mais j'aimais bien ces personnages qui étaient plutôt passifs. Et donc là, il se dit, on va faire vraiment du divertissement. Et il y a une phrase comme Jean Rochefort a toujours le sens des formules, il dit de lui que c'est un Superman sans autorité. J'adore cette
formule. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a une décontraction incroyable et il n'y a pas une prétention, il n'y a pas de prétention en fait. Donc il n'y a pas d'ego. Je fais le truc, je saute de là. Alors, évidemment, derrière, ça reste une machine, la machine Belmondo. Tout est Audiard en parle. Il valide tout, les cascades, les machins, les trucs. Mais il y a quand même une joie de vivre. Il y a un goût du risque, mais il y a surtout une joie de vivre. Donc là, il profite de tout ça. Alors, il se laisse enfermer, hein, clairement. Et je le regrette. Hein, je crois que c'est Jean-Pierre Lavoignac qui dit il y a des rencontres avec Tavernier, Corneau, ça aurait été extraordinaire.
Oui,
donc il se laisse enfermer. À l'opposé, Delon va faire que des expérimentations, hein, pour le coup. Alors, ça va se casser la gueule assez souvent, mais je trouve que même quand il fait Le Passage, Car sur le papier, c'est vachement.
Sur le papier, oui.
Sur le papier, c'est couillu, quoi. Oui, après, le résultat est ce qu'on en pense. Ouais. Mais il va faire beaucoup ça. Hein. Attention, les gens, les enfants regardent, tout ça, c'est des choses. Il fait des choix intéressants de long là-dessus. Alors, ça marche pas souvent. Mais voilà, mais j'ai vu Bertrand Blier l'autre jour pour un documentaire que je fais sur Jean-Pierre Marielle, et on parlait de Calmos. Et c'est un film qui est quand même écrit au départ pour Jean-Yann et Belmondo. Jean-Yann était partant, évidemment. Et Belmondo a finalement refusé, quoi. Donc, ils sont partis sur Marielle et Rochefort, et c'est quand même merveilleux. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de films qui ne sont pas faits. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein, est-ce qu'il était mal conseillé voilà, donc il avait deux conseils. Il y avait Gérard Lebovici, hein, chez Armédia, et René Château, qui était coproducteur d'abord, attaché de presse et coproducteur. Mais bon, je crois que c'est Lebovici qui proposait les scénarios. Hein. Pour moi, la vraie prise de risque, elle est sur Le Magnifique de Broca, quoi. Où là, il joue avec son image. L'acteur quasiment numéro un du cinéma français à l'époque, il y a De Funès, lui, et Delon, quoi. Et il prend un risque hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'il se moque de lui. Bien sûr, on se moque de James Bond et tout ce qu'on veut, mais il se moque quand même du côté macho, viril, voilà. Et le film est vraiment
un chef-d'œuvre du genre. En tout cas, ouais. Moi, c'est sans doute mon préféré. Juste pour revenir aux cascades, on voit assez bien dans votre documentaire, par rapport aux archives que vous retrouvez, que vous nous montrez, c'est à quel point quand même c'était dangereux tout ça. À quel point, je crois que c'est le fils de Claude Cariez qui dit que Peur sur la ville, on pourrait pas le refaire de la même manière aujourd'hui. Et en avait-il conscience de ça, de ce danger?
Oui. Il y a une vraie conscience, c'est-à-dire que c'est pas un casse-cou, hein. Pour le coup, il est entouré d'amis cascadeurs, Daniel Vérité, Claude Cariez. Moi, je suis très content d'avoir trouvé les images du tournage de Peur sur la ville, qu'on n'avait jamais vu en France. Donc, c'est vraiment fabuleux. Quand il est suspendu à un balcon, là, je vois pas trop où est le câble.
Hein, non, moi, on le voit pas, non.
Pas vu, moi. Donc, et quand il est suspendu à Beaugrenelle, sur le filin, ouais. il fait des vannes, quand même. Hein. Il est à 30 mètres au-dessus du sol.
Toujours décontracté. Hein,
et donc, il y a Henri Verneuil qui est tranquille dans l'appartement, et Belmondo fait une vanne, quoi. Donc j'ai dit, mais donc ça, moi ça, c'est quand j'ai découvert ça, j'étais hilar, et puis ça a fonctionné très bien. Quand on a fait une projo, tout le monde était incroyable. Enfin, je pense que voilà, il y a quand même une conscience du danger. Si c'est trop dangereux, il le fera pas, ça c'est sûr. Mais en même temps, il a envie de le faire. Donc quand il tombe de l'escalier dans l'animal et qui se casse voilà, mais il y retourne quand même, hein. Ça c'est, et il se bat avec un tigre, hein. Enfin, je veux dire, bon, c'est grotesque quasiment, enfin pourquoi ça sert.
Donc ça l'amuse,
Audire le dit, c'est-à-dire que ouais, mais il y a qu'à lui dire que il peut monter sur un avion, il va le faire. C'est un jeu de con, quoi, comme dit Audire.
Eh bien, Jérôme Ouibon, merci beaucoup. Je rappelle que votre documentaire Dans les pas de Jean-Paul Rapneau accompagne le coffret de 6 films de Jean-Paul Rapneau édité chez Pathé, donc on peut retrouver Cyrano de Bergerac, Le Hussard sur le toit, Tout feu, tout flamme, La vie de château, Le sauvage.
Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il...
Les Maris de l'an 2.
Et Les Maris de l'an 2, il passera à la Cinémathèque lors de la rétrospective de Jean-Paul Rapneau. Et sur Ciné Plus en novembre, je n'ai pas la date. Mais voilà, donc il y aura une projection à la Cinémathèque pendant la rétro.
De votre documentaire?
Oui.
Très
oui.
Bien. Vous en faites bien d'en parler, puisqu'en effet, une rétrospective Jean-Paul Rapneau a lieu à la Cinémathèque française du 24 octobre au 3 novembre. La ressortie de Cyrano de Bergerac en version restaurée 4K le 31 octobre. Ressortie également en salle du Sauvage, Tout feu, tout flamme et Le Hussard sur le toit le 14 novembre. Donc, si vous aimez Jean-Paul Rapneau ou si vous ne le connaissez pas, c'est une occasion idéale. Et puis, la sortie donc du documentaire Belmondo ou Le goût du risque, édité à l'atelier d'images en DVD. Et puis, Jérôme, vous terminez votre travail aussi sur Philippe de Broca.
Oui, je sors un livre sur Le Magnifique, sur le tournage du Magnifique, avec une centaine de photos inédites. Il y a même des photos de scènes coupées au montage, avec les témoignages de pas mal de gens qui ont travaillé sur le film. Ça sort chez l'éditeur Cocorico le 26 octobre, si je ne m'abuse, avec une préface de Jean-Paul Belmondo.
Eh bien voilà, vous savez tout. Merci beaucoup et vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Nous parlons de l'actualité des ressorties. On commence cette actualité des ressorties avec Ingmar Bergman. On en avait déjà longuement parlé dans le flashback précédent, puisque nous avions interviewé Janne Magnussen pour son documentaire Bergman, une année dans une vie. Mais il y a de nombreux films d'Ingmar Bergman qui ressortent dans les salles en complément de la rétrospective à la Cinémathèque française. Le 24 octobre, Le Visage, L'œil du diable, À travers le miroir, Une passion, Mon île phareux et De la vie des marionnettes sortent en version restaurée. Également le 24 octobre, Le Silence, réalisé en 1963, l'histoire de deux femmes et d'un petit garçon qui font halte dans un hôtel de luxe désuet et désert au cours d'un voyage dans un pays qu'on ne connaît pas, en guerre, dont ils ne comprennent pas la langue. Un film qui peut être très bien illustré la phrase d'Olivia Salles que je trouve assez juste sur Bergman. La compréhension vertigineuse de l'humain qui caractériserait son cinéma, c'est assez juste. Ce qui est frappant en revoyant en voyant Le Silence, c'est la manière vraiment extraordinaire qu'il a de filmer les visages de ses actrices, tant dans des moments de jouissance que des instants de douleur et d'effroi. L'atmosphère mystérieuse aussi est décalée de cet hôtel improbable, avec cette bande de comédiens nains qui arpentent comme ça les couloirs de l'hôtel. Et puis la complexité, bien sûr, mais ça c'est toute l'œuvre de Bergman, des relations entre les hommes et les femmes, en l'occurrence là entre ces deux femmes, campées magistralement par Ingrid Thelin et Gunnel Lindblom, une œuvre puissante, secrète et impudique, donc à redécouvrir le 24 octobre. Et puis, 13 autres films de Bergman sont déjà dans les salles depuis le 26 septembre. Je les cite, hein, Musique dans les ténèbres, La prison, Jeu d'été, Monica, Sourire d'une nuit d'été, Les fraises sauvages, La source, Les communiants, Persona, Cri et chuchotement, Scène de la vie conjugale et Sonate d'automne, tous bien sûr en version restaurée et bien sûr Le septième sceau, réalisé en 1957. Nous sommes en Suède, au 14e siècle, de retour des croisades, un chevalier rencontre la mort en chemin. Il lui propose une partie d'échecs afin de retarder l'échéance fatidique et de trouver des réponses à ses questionnements sur la foi. Entre-temps, le chevalier et son écuyer vont faire la rencontre de plusieurs personnages intrigants entre une famille de troubadours et une horde de dévots fanatiques. Une fascinante partie d'échecs avec la mort qui retrouve un nouvel éclat grâce à cette éblouissante restauration. Là, j'insiste vraiment, j'ai pu le découvrir à Cannes Classique et c'est un éblouissement magnifié par la beauté sidérante du noir et blanc. On est à nouveau happé par cette ambiance de fin du monde avec en point d'orgue la crainte du jugement dernier, magistralement personnifié lorsque le jongleur doit mimer l'état d'effroi au milieu de la caverne, un instant où il est humilié, un moment très fort, une œuvre métaphysique sur la peur de la mort où les croyances et les superstitions sont remises en question. Et puis Bergman n'hésite pas non plus à tortiller l'histoire, entremêlant la fin des croisades, la peste noire et les procès en sorcellerie dans une même temporalité, alors que tous ces événements ont lieu à plusieurs siècles d'intervalle. C'est un film, en le revoyant finalement, moins austère qu'on pourrait le croire, moins statufié. Bergman fait souvent un peu peur parce que dans Le septième sceau, il y a aussi de l'humour, même de manière assez prononcé, hein. Les répliques entre le chevalier et la mort sont parfois très savoureuses. Et puis le dernier plan, finalement, célèbre la vie, qui n'est pas tellement associé à l'œuvre de Bergman. Donc vraiment, vraiment, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, absolument à voir Le septième sceau en salle le 26 septembre, un des films préférés de son auteur.
Vem är du?
Jag är döden.
Kommer du för att hämta mig?
Jag har redan länge gått vid din sida.
Det vet jag.
Är du beredd?
Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick.
Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov.
Du spelar ju schack, inte sant?
Hur vet du det?
Ja. Jag har sett det på målningar och hört i visorna.
Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare.
Du kan ändå inte vara skickligare än jag.
Varför vill du spela schack med mig?
Det är min sak.
Det har du rätt i.
Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, friar du mig. Du fick svart.
Det passar ju bäst så. Intressant.
Changement de registre total avec Le Fanfaron de Dino Risi qui ressort le 3 octobre en version restaurée 4K, une restauration réalisée par la Cinémathèque de Bologne et l'Institut Luce Cinecittà, interprété bien sûr par Vittorio Gassman et Jean-Louis Trintignant, un méditerranéen très en verve, désinvolte, charmeur et fanfaron, fait la connaissance d'un étudiant, donc le méditerranéen c'est bien sûr Vittorio Gassman, fait la connaissance d'un étudiant en droit studieux, timide et complexé, c'est Jean-Louis Trintignant. Il va lui faire vivre deux jours de randonnée trépidante de Rome à Viareggio. Ettore Scola a été l'un des trois scénaristes du film, hein, et collabora à plusieurs reprises avec Dino Risi. Le Dino Risi disait lui-même, hein, il avouait qu'il se reconnaissait plutôt bien dans le personnage de Vittorio Gassman, personnage qui avait été proposé à l'origine à Alberto Sordi, le rôle donc de Bruno Cortona, mais Alberto Sordi avait décliné. Gassman-Risi, c'est le début d'une magnifique collaboration hein, qui se poursuivra évidemment avec Parfum de Femme et Au nom du peuple italien. Il est, il faut dire, toujours formidable en volant de sa Lancia Aurelia dans la peau de ce séducteur hableur et volubile, sorte de quintessence du mal italien face à un Jean-Louis Trintignant très juste et parfait en étudiant coincé. Un des sommets de la comédie italienne, mais aussi un regard extrêmement lucide sur une société en plein boom économique, pleine d'insouciance et d'allégresse, qui finira, à l'image de la scène finale, par prendre des chemins beaucoup plus sinueux.
Tra mezz'ora siamo a Civitavecchia, ci facciamo una bella zuppa di pesce, alle 5 sta di nuovo a casa. Fino a stasera, oh, a voglia.
Non fa niente, guardi, mi riporti indietro.
Ah, no, andiamo da Ernestino al 13° chilometro.
È lontano, io scendo.
Ma che è lontano? 4 minuti di macchina, con me.
Guarda come dondolo, guarda come dondolo.
Sono nelle mani di un pazzo.
Con le gambe d'angolo.
Hai avuto paura?
No, no, guida bene lei.
Vai, cavolina! Vai!
Attenzione!
Basta la Vespa!
Ma vedo mille mille.
Vai a spinta!
Venirmi
con te
insieme a te. Guarda come dondolo.
Roberto, aspetta al bar.
Dimmi una cosa, ma tu con quella ci hai parlato mai?
Una volta sola all'università.
Una volta? Oh, ma io a te mica hai capito.
E qua. Io per le donne sono come un cane da tartufo.
Ecco.
Hello, darling!
Forse sono brividi.
Quella a destra da guardare.
A me.
E come no?
Ah, sono qui per puro caso.
Le gambe ad angolo.
Qualche settimana avrò gli esami e dovrei già essere a casa a studiare il diritto amministrativo.
Che fa lei qui? Bravo, così mi piace. Quando ridi mi stai più simpatico. Ah, robe, che te frega delle tristezze.
Piacere.
Piacere.
Dai, levati questa maschera. Guarda, so che gli è successo. È un avvocato, una persona seria.
Quanti chilometri sono da qui a Viareggio?
Hai telefonato a Valenza.
D'angolo.
Bravo, è così che mi piace. Senti, vabbè, te ne dici, ci prendiamo a Calafuria, ti faccio mangiare una zuppa di pesce e la rimpazzire.
Ho passato con te i due giorni più belli della mia vita.
Borsalino de Jacques Deray ressort en version restaurée 4K le 10 octobre, réalisé en 1970 avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, mais aussi Michel Bouquet, Nicole Calfon et Julien Guiomard, hein, Belmondo et Delon campent deux truands du milieu marseillais, dans le Marseille des années folles, hein, François Capella et Roxy Freddy. C'est après la lecture du livre de Gene Saccomanno, Bandit à Marseille, que Delon a eu l'idée de en faire un film. Sautet, Deray, Carrière, Jean-Claude Carrière et Jean Co. S'attelle alors à l'écriture du scénario. Le tournage se déroule plutôt bien, sans accroc particulier. Il se jauge un peu, mais ça se passe pas mal. À la sortie du film, les critiques sont assez mitigées. Et c'est vrai qu'en le revoyant, je trouve qu'on peut toujours reprocher un peu cette vision très propre quand même et idéalisée du Marseille de cette époque et de deux truands marseillais notoires dont s'inspire clairement le film. Hein. Les véritables Paul Carbone et François Spirito qui n'étaient pas spécialement des enfants de cœur, surtout au moment de la guerre. Et on peut regretter le manque de personnalité de Jacques Deray, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais qui là, on sent là, le talent est un peu étouffé hein, quand même par la présence
un peu coincé
par ses comédiens vedettes.
C'est vrai que ça s'est bien passé au tournant. Moins à la sortie, hein, pour des problèmes de place, de nom sur les affiches, hein, ça a été quand même un peu houleux quand même. Hein, donc Delon ayant un peu menti, hein, on va dire. Pour résumer, mais il y a quand même la musique de Claude Bouling. Hein, il faut quand même, c'est assez incroyable. Mais je crois que Deray préférait la suite en fait. Borsalino
& Co. Réalisé quelques années après, oui.
On y retrouve plus des thèmes qui lui sont chers. Je trouve que là, il a plus. Puis il y a évidemment l'amitié avec Delon, même si Delon, même dans le monde, il y a quelques jours, minimise toujours hein, ses collaborations avec Deray ou Verneuil, ce qui est toujours un peu attristant, et il met toujours en avant Visconti et Clément et Melville. Alors que Deray, ça a été quand même. Là, quand on revoit La Piscine, je veux dire, c'est un film important dans la carrière de Delon. Quoi, donc.
Alors, oui, pour entrer juste un peu dans le détail, en effet, le succès a été entaché par une brouille entre les acteurs, puisque par contrat, il était prévu que l'affiche et le générique du film soient ainsi libellés. Adèle Productions présente Belmondo Delon. Or, une fois la maquette de l'affiche réalisée, Delon refusa de la présenter à Belmondo. Lorsque Belmondo s'aperçut qu'il était écrit sur l'affiche « Paramount présente une production Alain Delon », Belmondo Delon dans Borsalino. Il intenta un procès qu'il gagna en 1972. Et en effet, petite anecdote par rapport à la musique dont vous venez de parler de Claude Bolling, elle existait en fait avant le tournage. Le compositeur avait fait écouter à Deray et Delon plusieurs morceaux existants, dont un qu'il venait d'enregistrer pour un 45 tours qui n'était pas encore sorti. Et Deray se fixa alors immédiatement sur ce son de piano bastringue et choisit ce morceau comme thème central du film. Un titre aujourd'hui légendaire qui contribuera grandement au succès du film.
Je veux toujours te parler, mais on n'a jamais deux minutes tranquille.
T'as raison.
Dis donc, il y a un autre coup qu'on pourrait faire tous les deux, là, du même genre que les poissons, mais en plus grand.
Explique.
Polly.
Quoi, Polly?
La boucherie.
Ça m'intéresse pas, la boucherie.
Pourquoi?
J'aime les bouchers.
Je suis sûr qu'on peut l'avoir, Polly. C'est comme Marello, c'est des hommes finis. Un coup de pouce et il bascule.
Peut-être, mais ça m'intéresse pas.
Laisse-moi au moins t'expliquer. Hein?
Je vais te le faire à pile ou face.
Pile?
T'as perdu. Tu vois, faut pas jouer avec moi.
Nous parlions dans le précédent flashback de l'année dernière à Marienbad. Alain René est à nouveau à l'affiche des ressorties avec Mon oncle d'Amérique, réalisé en 1980, qui ressort le 24 octobre en version restaurée avec Gérard Depardieu, Nicole Garcia, Roger Pierre et Henri Laborie. Henri Laborie qui joue son propre rôle, hein, qui part de l'exemple de trois destinées pour illustrer ses théories scientifiques sur le comportement humain. Roger Pierre est un ambitieux qui mène une carrière littéraire et politique. Nicole Garcia est une comédienne qui a quitté ses parents communistes. Et Depardieu, un fils de paysan qui devient directeur d'usine. C'est Alain René qui demande à Jean Gruau d'écrire un scénario d'après les travaux du neurobiologiste Henri Laborie, à succès puisque le film remporta tout de même le grand prix du Festival de Cannes et fut un succès en salle. René met en exergue les théories, oui, pour ceux qui n'ont pas vu le film comprennent un petit peu comment ça fonctionne. René met en exergue les théories scientifiques de Laborie sur le comportement humain aux situations vécues par plusieurs protagonistes. Donc c'est un film très étonnant quand même dans sa construction, dans lequel René illustre des moments clés de la vie de ses personnages par des extraits de films, puisque chacun des personnages s'identifie à un grand acteur du cinéma. Daniel Darieux pour Roger Pierre, Jean Marais pour Nicole Garcia et Jean Gabin pour Gérard Depardieu. Une œuvre très stimulante et ludique que René décrivait comme une comédie biologique et qui amorce une rupture dans sa filmographie annonçant Smoking No Smoking et on connaît la chanson.
Ici, j'étais sûr qu'il y avait un coffre enterré avec un trésor. Je m'étais procuré une pioche et je creusais, je cherchais. J'y passais des journées. J'entendais tout le temps parler d'un oncle, un frère de ma grand-mère qui était parti en Amérique. J'étais sûr qu'il reviendrait pour me dire où se trouvait le trésor. Pour moi, le roi de l'or, c'était lui. Mon oncle d'Amérique.
Ils ont tout déménagé.
Qui ça, il?
Oui, oui, bien sûr, vous pouvez compter sur moi.
La race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite surtout...
Merde, merde, merde!
L'Europe, l'ouest de l'Asie... et l'Amérique.
Et puis il faut bien qu'il y ait un chef. Nous avons choisi Vestrat.
Est-ce que vous fournissez le tablier et la toque blanche?
Il va vous casser la figure.
Un cerveau, ça ne sert pas à penser, mais ça sert à agir.
Regarde, moi, paysan, fils de paysan, tout juste le certificat. Quand j'ai débuté, j'en savais moins que toi. J'ai suivi des cours, les arts et métiers. J'ai gravi un à un tous les échelons.
René Raguenaud, né le 27 décembre 1941 à Torfou, Maine-et-Loire. À 35 ans, directeur technique dans la banlieue lilloise. Sa femme, institutrice, attend un troisième enfant. Ne fait pas de politique, ulcère à l'estomac.
Tu vois, je ne suis pas morte.
Oh!
Je vais crever.
Jeannine Garnier, née à Paris le 13 janvier 1948 dans le 20e arrondissement. Théâtre amateur puis semi-professionnel. Liaison avec un haut fonctionnaire de la radiodiffusion. Ne manque jamais les films de KPDP à la télévision.
Non! Tu ne sortiras pas de Jessie.
Ouf! Il ne me touche jamais pendant 3 semaines. C'est toujours ça de gagner.
Jean Le Gall, né le 4 août 1929 dans le Morbihan. Chargé de mission au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, marié, 2 enfants. Officier dans l'ordre des Palmes académiques.
On termine termine cette partie ressortie avec deux films de John Carpenter, Halloween et Fog, réalisés en 1978 et 1980, qui ressortent l'un et l'autre les 24 et 31 octobre, à l'occasion en fait d'une rétrospective plus large de ces films de 78 à 88, puisque nous aurons dans les mois à venir New York 97, Prince des Ténèbres, The Live, enfin voilà, plusieurs longs métrages. Halloween est donc sorti en 78, Fog en 1980. Bon, vous me direz si je me trompe, Jérôme. Fog, il le réalise deux ans après. C'est pas un film que Carpenter aime énormément. On le revoit, il est quand même très handicapé par son budget, ses effets spéciaux. Je pense daté même à l'époque.
C'est un film bancal.
Tellement bancal que le premier montage fut tellement calamiteux que Carpenter dut retourner une partie des scènes ainsi que réenregistrer intégralement la musique et la bande-son. Deux ans auparavant, il y avait eu Halloween, un classique incontestable.
Oui, et puis c'est des films à voir en salle. Moi, j'ai le souvenir d'avoir découvert Halloween lors d'une projection à la Cinémathèque à Chaillot. C'était la première fois que je voyais le film. Comme il a une utilisation incroyable du scope, faut vraiment voir ça en salle. En plus, là, il est secondé par Dean Cundey, son chef-op de l'époque. Autant je suis assez critique sur ce qu'il fait Dean Cundey par la suite sur Jurassic Park ou des choses comme ça. Autant quand il est avec Carpenter, c'est assez incroyable la photo. Même alors Fox, c'est vrai que c'est vraiment pas un de ses meilleurs, mais c'est vrai qu'il l'a retourné parce que le premier montage ne faisait pas peur.
un peu embêtant pour un film.
Mais par contre, visuellement, ça reste assez époustouflant. Le travail sur la lumière et puis près du phare et tout ça. Halloween, évidemment. Donc c'est vraiment, je pense que voilà, moi j'ai très envie de revoir certains de ces films en salle pour l'utilisation du cadre et le travail sur la photo. Quoi, donc.
Oui, et puis aussi pour avoir déniché, entre guillemets, des acteurs inconnus, puisqu'il découvre évidemment Jamie Lee Curtis dans Halloween, qui est une parfaite inconnue. En fait, il réalise le film après une proposition du producteur Mustapha Akkad, qui avait été séduit par Asso et qui lui propose la réalisation d'Halloween. 22 jours de tournage, 325 000 dollars de budget. Il signe la bande originale, rentré depuis dans l'histoire. Et au final, un des films les plus des films indépendants, parce que c'était un film indépendant à l'époque, les plus rentables de l'histoire.
Pendant très longtemps, c'était le film indépendant le plus rentable de l'histoire, jusqu'au projet Blair Witch, en fait. Je crois que ça avait donc coûté 300 000 euros et ça avait rapporté 50 millions de dollars. Donc voilà, ça a vraiment lancé la carrière de Carpenter, qui va encore continuer un peu chez les indépendants, chez Avco Ambassi, avant de faire The Thing chez Universal. Avec la suite de la carrière un peu plus compliquée dans les studios, évidemment. Donc voilà, mais c'est vraiment important, quoi. Et c'est un des cinéastes majeurs de la fin des années 70-80. Il faut aller célébrer ça, quoi.
Et vous pourrez éventuellement le célébrer aussi à l'occasion de la sortie du 11e film de la franchise Halloween, puisqu'un 11e film sort dans les salles le 24 octobre. Alors, je ne l'ai pas vu, mais pour juste vous informer, c'est comme si on avait gommé les 9 films précédents. On repart de la base et en fait, c'est une suite 45 ans après, du premier. Premier. Ouais. C'est comme si le 2 n'avait pas existé et tous les suivants, pareil.
Pourtant, le 2 se passe 3 minutes après même pas. C'est la continuité du 1. Le 2, vraiment, c'est la même nuit.
C'est la même nuit, c'est juste après le 2 que Carpenter au départ devait réaliser. Finalement, ouais. Il n'a pas voulu le faire.
Ça reste un film inutile, mais oui. C'est quand même un film qui fait le lien et bref.
Voilà, donc Carpenter a collaboré quand même par la musique à ce nouveau piste, on s'y perd complètement, mais en tout cas voilà, donc double actualité, évidemment l'original qu'il faut absolument revoir le 24 octobre et puis le même jour, si ça vous tente, cet énième volet donc avec à nouveau Jamie Lee Curtis.
15 years ago, I met this 6-year-old child with this blank, pale, emotionless face. The blackest eyes, the devil's eyes.
I'm babysitting the Doyles. The Wallaces leave at 7.
What about the boogeyman?
The boogeyman is coming!
There's no such thing. Halloween night, it's when people play tricks on each other. It's all make-believe. The boogeyman can only come out on Halloween night, right?
Right.
While I'm here tonight, I'm not about to let anything happen to you.
Promise?
Promise.
You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh?
He's been here once. He's on his way. Tonight.
Families. Children, all lined up in rows, up and down these streets. You're telling me they're lined up for a slaughterhouse?
Death has come to your little town, Sheriff.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur SoundCloud, iTunes et toutes les applications podcast. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 5 novembre pour une nouvelle émission. À très bientôt sur Séance Radio.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.